Georges Bernanos, sous le soleil de Satan, neuvième partie. Le saint de Limbre, chapitre premier. Il ouvrit la fenêtre. Il attendait encore on ne sait quoi. À travers le gouffre d'ombre ruisselant de pluie, l'église luisait faiblement, seule vivante. « Me voici, » dit-il comme en rêve. La vieille Marthe, en bas, tirait les verrous. Au loin, l'enclume du maréchal tinta. Mais déjà, il n'écoutait plus. C'était l'heure de la nuit où cet homme intrépide, soutien de tant d'âmes, chancelait sous le poids de son magnifique fardeau. « Pauvre curé de Limbre, » disait-il en souriant, « il ne fait rien de bon, il ne sait même plus dormir. » Il disait aussi, « Croyez-vous bien, j'ai peur du noir. » La lampe du sanctuaire dessinait peu à peu dans la nuit l'ogive des grandes fenêtres à trois meneaux. La vieille tour, construite entre le chœur et la grande nef, élevait juste au-dessus sa flèche en charpente et son pesant beffroi. Il ne les voyait plus. Il était debout face aux ténèbres, seul, et comme à la proue d'un navire. La grande vague ténébreuse roulait autour avec un bruit surhumain. Des quatre coins de l'horizon accouraient vers lui les champs et les bois invisibles, et derrière les champs et les bois d'autres villages et d'autres bourgs, tous pareils, crevant d'abondance, ennemis des pauvres, pleins d'avares, accroupis, froids comme des suaires. Et plus loin encore, les villes qui ne dorment jamais. « mon Dieu !» répétait-il, ne pouvant pleurer ni prier. Comme au chevet d'un moribond, chaque minute tombait dans ces ténèbres irréparables. Si courtes que soient les nuits, le jour vient trop tard. Célimène a déjà mis son rouge, l'ivrogne a cuvé son vin. La sorcière, retour du sabbat, toute chaude encore, s'est glissée dans ses draps blancs. Le jour vient trop tard. Mais la seule justice, d'un pôle à l'autre, surprendra le monde. Il finit par glisser à genoux comme on coule à pic. Cette justice qu'un peuple généreux attend de Monsieur le ministre des Finances, il ne la cherchait pas si loin. Plutôt là-bas, au-dessous de l'horizon, toute prête, pétrie à l'aube prochaine irrésistible dans la nuit qui vole en éclats. La main ouverte ne se fermera pas. La parole séchera sur les lèvres. Le monstre évolution, fixé à jamais, cessera soudain de s'étendre et de bouillonner. L'effrayante aurore qui se lève au-dedans de l'homme donnera à la pensée la plus secrète sa forme et son volume éternel, et le cœur double et furtif ne pourra même plus se renier. Consummatum est, c'est-à-dire tout est défini pour toujours. Monsieur Loyolet, inspecteur d'académie, au titre d'agrégé ès-lettres, a voulu voir le saint de Limbre dont tout le monde parle. Il lui a fait une visite en secret avec sa fille et sa dame. Il était un peu ému. « Je m'étais figuré un homme imposant, dit-il, avec de la tenue et des manières. Mais ce petit curé n'a pas de dignité. Il mange en pleine rue comme un mendiant. » « Quel dommage, disait-il aussi, qu'un tel homme puisse croire au diable. » Le curé de Limbre y croit, et cette nuit même, il le craint. « J'étais, a-t-il avoué plus tard, éprouvé depuis des semaines par une angoisse nouvelle pour moi. J'avais passé ma vie au confessionnal, et j'étais tout à coup accablé du sentiment de mon impuissance. » Je sentais moins de pitié que de dégoût. Il faut n'être qu'un pauvre prêtre pour savoir ce que c'est que l'effrayante monotonie du péché. Je ne trouvais rien à dire. Je ne pouvais plus qu'absoudre et pleurer. Au-dessus de lui, la nuée se déchire en lambeaux. Une, 10, 100 étoiles renaissent une par une à la cime de la nuit. Une pluie fine, une poussière d'eau retombe d'un nuage crevé par le vent. Il respire l'air rafraîchi, détendu par l'orage. Ce soir, Il ne se défendra plus. Il n'a plus rien à défendre. Il a tout donné. Il est vide. Ce cœur humain, il le connaît bien, lui. Il y est entré avec sa pauvre soutane et ses gros souliers. Ce cœur. Ce vieux cœur qu'habite l'incompréhensible ennemi des âmes, l'ennemi puissant et vil, magnifique et vil, l'étoile reniée du matin, Lucifer ou la fausse aurore. Il sait tant de choses, pauvre curé de l'Imbre, que la Sorbonne ne sait pas. Tant de choses qui ne s'écrivent pas, qui se disent à peine, dont on s'arrache l'aveu, comme d'une plaie refermée. Tant de choses, et il sait aussi ce qu'est l'homme, un grand enfant plein de vices et d'ennuis. Qu'apprendrait-il de nouveau, ce vieux prêtre? Il a vécu 1000 vies, toutes pareilles. Il ne s'étonnera plus, il peut mourir. Il y a des morales toutes neuves, mais on ne renouvellera pas le péché. Pour la première fois, il doute, non pas de Dieu, mais de l'homme. 1000 souvenirs le pressent. Il entend les plaintes confuses, les bégaiements pleins de honte, le cri de douleur de la passion qui se dérobe et qu'un mot a cloué sur place, que la parole lucide retourne et dépouille toute vide. Il revoit les pauvres visages bouleversés, les regards qui veulent et ne veulent pas, les lèvres vaincues qui se relâchent et la bouche amère qui dit non. Tant de faux révoltés, si éloquents dans le monde qu'il a vu à ses pieds, risibles. Tant de cœurs fiers où pourrit un secret. Tant de vieux hommes pareils à d'affreux enfants. Et par-dessus tous, fixant le monde d'un regard froid, les jeunes avares qui ne pardonnent jamais. Aujourd'hui comme hier, comme au premier jour de sa vie sacerdotale, les mêmes. Il est au terme de son effort et l'obstacle manque tout à coup. Ceux qu'il a voulu délivrer, c'était ceux-là même qui refusent la liberté comme un fardeau. Et l'ennemi qu'il a poursuivi jusqu'au ciel rit au-dessous, insaisissable, invulnérable. Tous l'ont berné. « Nous cherchons la paix, » disait-il. Non pas la paix, mais un court repos, une halte dans les ténèbres. Au pied du solitaire, ils venaient jeter leur écume, et puis ils retournaient à leur triste plaisir, à leur vie sans joie. Et ils se comparaient aussi à ces vieilles murailles insultées, où le passant grave une ligne obscène qui se détruisent lentement, pleine de secrets dérisoires. Ceux qu'il a tant de fois consolés ne le connaîtraient plus. À cette minute, une des plus tragiques de sa vie, il se sent pressé de toutes parts, tout est remis en question. Certaines pensées plus perfides, longtemps repoussées, réapparaissent soudain, et il ne les reconnaît plus. Il trouve à toute chose un sens et comme une saveur nouvelle. Pour la première fois, il contemple sans amour, mais avec pitié, le lamentable troupeau humain, né pour paître et mourir. Il goûte l'amer sentiment de sa défaite et de sa grandeur. À la limite de l'angoisse, la volonté intrépide refuse de s'avouer vaincue. Elle veut retrouver son équilibre, coûte que coûte. Il est debout maintenant. Il pose devant lui un regard inflexible. Que de nuit pareille à cette nuit, jusqu'à la dernière nuit. Mais toujours dans la foule, la grâce divine frappera son coup. Toujours elle marquera quelqu'un de ces hommes vers qui monte la justice à travers le temps comme un astre. L'astre docile accourt à leur voix. Il ne regarde plus la petite église. Il regarde au-dessus. Il est tout vibrant d'une exaltation sans joie. Il ne souffre presque plus. Il est fixé pour toujours. Il ne désire rien, il est vaincu. Par la brèche ouverte, l'orgueil rentre à flot dans son cœur. « Je me damnais sans y penser, » disait-il plus tard. « Je me sentais durcir comme une pierre. » Le projet qu'il a tant de fois formé d'aller se cacher pour mourir dans une retraite au bord du monde, chartreuse ou trappe, revient se présenter à son esprit, mais comme une image nouvelle avec une crispation du cœur aiguë et douce, un évanouissement mystérieux. À de telles minutes, jadis, le pasteur n'abandonnait point son troupeau. Il rêvait de le porter avec soi jusqu'au lieu de sa pénitence, pour vivre encore et mériter pour lui. Mais à présent, ce souvenir même s'efface, le dernier. L'infatigable ami des âmes ne souhaite plus que le repos, et quelque chose encore dont la pensée secrète détend toutes ses fibres, le besoin de mourir, pareil au désir des larmes. Et ce sont en effet des larmes qui baignent ses yeux, mais sans décharger son cœur, et, dans sa naïveté, le vieil homme ne les reconnaît plus, s'étonne et ne peut donner un nom à ce vertige voluptueux. La tentation suprême, où se sont abîmées avant lui tant de ces âmes ardentes qui traversent d'un coup le plaisir et trouvent le néant, pour l'embrasser d'une définitive étreinte, il y va succomber sans avoir ouvert les yeux. À la limite de son immense effort, la fatigue tant de fois vaincue, refoulée, jaillit de lui comme l'effusion de son propre sang. Nul remords, l'ennemi plein de ruses le roule dans cette lassitude désespérée comme dans un suaire, avec une adresse infinie, l'affreuse dérision des soins maternels. C'est en vain que le vieil homme accablé dirige à travers la nuit blanchissante un regard où s'élève une dernière lueur et qui ne reflétera pas le jour levant. Il ne voit rien au-dedans de lui, aucune image où fixer la tentation, aucun signe du travail qui le détruit lentement sous les yeux d'un maître impassible. Ce n'est plus ce cloître qu'il désire, mais quelque chose de plus secret que la solitude, l'évanouissement d'une chute éternelle dans les ténèbres refermées. À celui qui tint si longtemps sa chère esclave, la volupté découvre à la fin son vrai visage, plein d'un rire immobile, et ce n'est pas non plus cette image, ni aucune autre qui troublera l'essence du vieux solitaire. Mais, dans son cœur candide et têtu, l'autre concupiscence s'éveille, ce délire de la connaissance qui perdit la mère des hommes, droite et pensive, au seuil du bien et du mal. Connaître pour détruire, et renouveler dans la destruction sa connaissance et son désir. Ô soleil de Satan, désir du néant recherché pour lui-même, abominable effusion du cœur. Le sein de l'humbre n'a plus de force que pour appeler ce repos effroyable. La grâce divine met un voile devant ses yeux, tout à l'heure plein encore du mystère divin. Ce regard si clair hésite à présent, ne sait où se poser. Une étrange jeunesse, une avidité naïve, pareille à la première blessure des sens, échauffe le vieux sang, bat dans sa maigre poitrine. Il cherche à tâtons, il caresse la mort, à travers tant de voiles d'une main qui défaille. Jusqu'à cette minute solennelle, sa vie a-t-elle eu un sens ? Il l'ignore. Il ne voit derrière lui qu'un paysage aride et ses foules qu'il a traversées en les bénissant. Mais quoi ? Le troupeau trotte encore sur ses talons, le poursuit, le presse, ne lui laisse aucun repos, insatiable avec cette grande rumeur anxieuse et ce piétinement de bête blessée. Non, il ne tournera pas la tête, il ne veut pas. Ils l'ont poussé jusque-là, jusqu'au bord et au-delà. Ô miracle, il y a le silence, le vrai silence, l'incomparable silence, son repos. Mourir, dit-il à voix basse, mourir. Il épelle le mot pour s'en pénétrer, pour le digérer dans son cœur. C'est vrai qu'il le sent maintenant au fond de lui, dans ses veines, ce mot, poison subtil. Il insiste, il redouble avec une fièvre grandissante. Il voudrait le vider d'un coup, hâter sa faim. Dans son impatience, il a ce besoin du pécheur d'enfoncer dans son crime toujours plus avant, pour s'y cacher à son juge. Il est à cette minute où Satan pèse de tout son poids, où s'applique au même point d'une seule pesée toutes les puissances d'en bas. Et c'est en haut qu'il lève pourtant son regard, vers le carré de ciel grisâtre où la nuit se dissipe en fumée. Jamais il n'a prié avec cette volonté dure, d'un tel accent. Jamais sa voix ne parut plus forte entre ses lèvres, murmure au dehors, mais qui au dedans retentit, pareil à un grondement prisonnier dans un bloc d'airain. Jamais l'humble thaumaturge dont on raconte tant de choses ne se sentit plus près du miracle face à face. Il semble que sa volonté se détend pour la première fois, irrésistible, et qu'une seule parole articulée dans le silence va le détruire à jamais. Oui, rien ne le sépare du repos qu'un dernier mouvement de sa volonté souveraine. Il n'ose plus regarder l'église, ni dans la brume de l'aube les maisons de son petit troupeau. Une honte le retient, qu'il a hâte de dissiper par un acte irréparable. À quoi bon s'embarrasser d'autres soins superflus? Il baisse les yeux vers la terre, son refuge. Chapitre 2. C'est alors que, par deux fois, la porte basse qui donne sur la route de Chavranches claqua. Dans la courette, le poulailler tout entier battit des ailes, le chien Jaco secoua sa chaîne, et tous ces bruits ne firent qu'une seule note claire dans le clair matin. Les socs de la vieille Marthe claquaient déjà sur les marches, clic-clac, et plus sourd dans l'herbe humide, floc-foc, puis la serrure grinça. À ce moment, le saint de l'imbre s'éveilla. Il n'y a de silence absolu que de l'autre côté de la vie. Par la plus mince fissure, le réel glisse et rejaillit, reprend son niveau. Un signe nous rappelle, un mot tout bas murmuré ressuscite un monde aboli. Et tel parfum, jadis respiré, est plus tenace que la mort. Les yeux du bonhomme se tournèrent d'instinct vers le pauvre oignon d'argent, souvenir du grand séminaire, attaché au mur. À 7 heures du matin, se dit-il, assurément c'est un malade. Un malade, un de ses enfants. De son regard si bref et si aigu, il revit le village épars et les fumées dans les arbres, toute la petite paroisse et tant d'âmes à travers le monde, dont il était la force et la joie, l'appelle, le nomme. Il écoute, il a déjà répondu, il est prêt. Qu'est-ce qu'il attend au bas de l'escalier, son perchoir, comme il aime à dire? Quelle parole, quel visage? Et tout à l'heure encore, quel nouveau combat! Car il emporte en lui cette chose qu'il ne peut nommer, accroupie dans son cœur si large et pesante, son angoisse, Satan. Il n'a pas recouvré la paix, il le sait. Avec lui respire un autre être, parce que la tentation est comme la naissance d'un autre homme dans l'homme, et son affreux élargissement. Il traîne au-dedans ce fardeau. Il n'ose le jeter, ou le jetterait-il, dans un autre cœur? Mais le saint est toujours seul au pied de la croix, nul autre ami. « Monsieur le curé !» s'écrie la vieille Marthe. « Monsieur le curé !» Il a descendu les marches sans y penser, et il poursuit son rêve à travers la cuisine, vers le jardin, les yeux mi-clos. La bonne femme le tire par la manche. « Dans la salle, monsieur le curé, dans la salle !» Et elle hausse un peu les épaules avec un sourire de pitié. Cette salle est une belle pièce, une très belle pièce, bien cirée. On y voit 6 chaises de paille, 2 bécassines empaillées sur la cheminée de marbre gris, à côté d'un gros coquillage, et une monumentale statue de Notre-Dame de Lourdes en plâtre blanc, d'un terrible blanc bleuté. Sœur Saint-Mémorin l'a rapportée de Conflans-sur-Somme aux dernières vacances de Pâques. Il y a aussi une mise au tombeau, dans un cadre de chêne toute piquée de moisissures, et encore sur le papier au ramage pâli, un vrai papier d'auberge, près de l'unique fenêtre, une grande croix de bois noir, sans Christ, toute nue. Et c'est elle que monsieur le curé a vue premièrement, et il a aussitôt détourné les yeux. « Monsieur le curé, dit Marthe, voilà notre maître Duplouy, rapport à son garçon malade. » Le maître Duplouy s'est levé, a toussé un bon coup et craché dans les cendres. Devant lui, la tasse à café, vide, fume encore. « Lequel ?» demande étourdiment le vieux prêtre. Et il s'arrête aussitôt, rougit sous le regard de Marthe et balbutie. « Chacun sait, mon Dieu, que le maître Duplouy n'a qu'un garçon. » Mais le voyageur ne s'étonne pas et rectifie paisiblement. « C'est Thiénot, notre gars. Ça l'a pris, retour des vêpres, comme on dirait une indigestion. Et puis des maux de tête à crier grâce. Alors au petit matin, voilà qu'il dit à sa mère « Mais, je peux plus remuer. » C'était vrai, ni bras, ni jambes, rien, une paralysie, et des yeux tout retournés. Monsieur Gambillet me dit « Mon pauvre Arsène, c'est la fin. » Une méningite, qu'il a dit. Alors la mère a entendu, vous savez ce que c'est. On ne peut pas lui faire entendre raison. « Va-t'en chercher le curé de l'Indre !» qu'elle criait. Alors j'ai attelé le cheval et me voici. Il regarde le sein de l'Indre d'un bon regard, où lui, tout de même, à travers les larmes, un peu d'ironie. D'homme à homme, on sait ce que c'est qu'une idée de femme. Et puis, ce sein dont on raconte tant d'histoires et qui ne connaît pas encore le petit gars Duplouy, ce sein auquel on en remontre. « Mon ami, mon bon ami, bredouille l'abbé, je veux bien, c'est-à-dire, je voudrais, je crains vraiment. Voyons, voyons, Luzarne n'est pas ma paroisse, et monsieur le curé de Luzarne, je suis très touché du souvenir de madame Havray, pauvre femme, mais je devrais... Il craint surtout d'humilier un confrère susceptible. Et puis il est si bas aujourd'hui, vraiment. Mais le maître Duplouy n'a qu'une parole. Il a déjà roulé son cache-nez, fermé son manteau de drap. Et Marthe met entre les mains de son maître avec autorité un vieux chapeau verdi. Il faut partir. Il est parti. Chapitre 3. Monsieur le curé de Luzarne est un homme simple. Il vit de peu, d'un petit nombre de sentiments simples, que sa prudence n'exprime pas. Il est jeune encore, passé 50 ans, et il le sera toujours, il n'a pas d'âge. Sa conscience est nette comme le feuillet d'un grand livre, sans rature et sans pâté. Son passé n'est pas vide, il y retrouve quelques joies, il les compte, il s'étonne qu'elles soient si bien mortes, en si bel ordre, à leur place, alignées comme des chiffres. Étaient-elles des joies, vraiment? Ont-elles jamais respiré? Ont-elles jamais battu? C'est un bon prêtre, assidu, ponctuel, qui n'aime pas qu'on trouble sa vie, fidèle à sa classe, à son temps, aux idées de son temps, prenant ceci, laissant cela, tirant de toute chose un petit profit, né fonctionnaire et moraliste, et qui prédit l'extinction du paupérisme, comme ils disent, par la disparition de l'alcool et des maladies vénérielles, bref, l'avènement d'une jeunesse saine et sportive en maillot de laine à la conquête du royaume de Dieu. Notre saint de l'Imbre, dit-il parfois avec un fin sourire, mais dans le feu de la discussion, il dit aussi votre saint, d'une autre voix. Car s'il reproche volontiers au gouvernement diocésain son formalisme et son scrupule, il n'en déplore pas moins le désordre causé par une juridiction paisible par un de ces hommes miraculeux qui bouleverse tous les calculs. Monseigneur ne montrera jamais, en telle manière, trop de prudence et de discernement, conclut-il, prudent comme un chanoine, et déjà hérissé de textes. Seigneur, un saint ne va pas sans beaucoup de dégâts, mais on doit faire la part du feu. Chaque tour de roue rapproche le curé de l'Imbre de ce censeur impitoyable. Au travers du brouillard, il voit déjà ses yeux gris, si vifs, narquois, jamais en repos ou dans une petite flamme toute grêle. À 6 kilomètres de sa pauvre paroisse, au chevet d'un enfant riche à l'agonie, Amenez-la comme un thaumaturge. Quelle ridicule affaire! Quel scandale! Il reçoit par avance en pleine poitrine la phrase de bienvenue pleine de malice. Que lui veut-on? Espère-t-il un miracle de cette vieille main fripée qui tremble à chaque chaos sur le drap de sa soutane gris d'usure? Il regarde cette main paysanne, jamais nette, avec un effroi d'écolier. Ah, qu'est-il au milieu de tous, qu'un paysan pauvre et têtu, fidèle au labeur quotidien, pas à pas dans le grand champ vide. Chaque jour lui présente une nouvelle tâche, comme un coin de terre à retourner ou enfoncer ses gros souliers. Il va sans tourner la tête, jetant à droite et à gauche une parole sans art et bénissant du signe de la croix infatigable. Ainsi, dans le brouillard d'automne, les ancêtres jetaient l'orge et le blé. Pourquoi viennent-ils de si loin, hommes et femmes, qui ne savent que son nom et des récits légendaires? À lui plutôt qu'à d'autres, si bien parlants, curés de villes ou de gros villages, et qui connaissent leur monde. Bien des fois, à la chute du jour, oppressé de fatigue, il a retourné cette idée dans sa tête jusqu'à l'obsession. Et puis, fermant les yeux, il finissait par s'endormir, dans la pensée des incompréhensibles dons de Dieu et de l'étrangeté de ses voix. Mais aujourd'hui, d'où vient que le sentiment de son impuissance à faire le bien l'humilie sans lui rendre la paix? Est-elle donc si rude à ses lèvres, la parole du renoncement fidèle? Oh, l'étrange détour du cœur! Tantôt il rêvait d'échapper aux hommes, au monde, à l'universel péché. Le souvenir de son grand effort inutile, de la majesté de sa vie, de son extraordinaire solitude, allait jeter sur sa mort une dernière joie pleine d'amertume. Et voilà qu'il doute à présent de cet effort même, et que Satan le tire plus bas. L'homme de sacrifice, lui, la victime désignée, marquée, non pas, mais un maniaque ignorant, exalté par le jeûne et l'oraison, un saint villageois, fait pour l'émerveillement des oisifs et des blasés. « c'est ainsi, » murmurait-il entre ses lèvres à chaque chaos, les yeux vagues. Cependant, la haie filait à droite et à gauche, la carriole courait comme en rêve, mais la terrible angoisse courait devant et l'attendait à chaque borne. Car cet homme étrange, où tant d'autres se déposèrent comme un fardeau, eut le génie de la consolation et ne fut jamais consolé. On sait qu'il s'en souvrit parfois aux rares moments où il se déchargeait de sa peine et pleurait dans les bras du père batelier, invoquant la pitié divine avec des plaintes naïves dans un langage d'enfant. Au fond du pauvre confessionnal de l'Imbre, qui sent les ténèbres et la moisissure, ses fils à genoux n'entendaient que la voix souveraine au-dessus de l'éloquence qui crevait les cœurs les plus durs, impérieuse, suppliante, et dans sa douceur même inflexible. De l'ombre sacrée où remuaient les lèvres invisibles, la parole de paix allait s'élargissant jusqu'au ciel et traînait le pécheur hors de soi, délié, libre. Parole simple, reçue dans le cœur, claire, nerveuse, elliptique, à travers l'essentiel. Puis, pressante, irrésistible, faite pour exprimer tout le sens d'un commandement surhumain, où ceux qui l'aimaient mieux reconnurent plus d'une fois l'accent et comme l'écho de la plus violente des âmes. Hélas, tandis qu'il se prodiguait ainsi au dehors, le dispensateur de la paix ne trouvait en lui-même que désordre, cohue, la galopade des images emportées, le sabbat plein de grimaces et de cris, suivi d'un affreux silence. Plusieurs ne comprirent jamais par quel miracle, le même que des milliers d'hommes choisirent pour arbitre au plus redoutable conflit du devoir, se montre toujours dans sa propre querelle, inégal, presque timide. « On s'amuse de moi, disait-il, on se sert de moi comme d'un jouet. » C'est ainsi qu'il donnait à pleine main cette paix dont il était vide. Chapitre 4. Nous voilà, dit le maître du pluie, entendant son fouet vers une fumée à travers les arbres. Un petit bonhomme, culotté de bleu horizon, poussa la barrière et prit les rênes. À l'entrée de la cour, Maître Avray mit pied à terre. Son compagnon le suivit jusqu'à la maison. Monsieur le curé de Luzarne les accueillit sur le seuil, haute silhouette noire. « Mon cher confrère, dit-il, vous êtes attendu ici comme un grand seigneur de jadis, en détresse, attendait monsieur Saint-Vincent. » Il souriait encore, jovial, mais avec une espèce de discrétion professionnelle, à deux pas du petit moribond. En même temps, il corrigeait la plaisanterie d'une vigoureuse poignée de main à la campagnarde. Mais déjà le curé de l'Imbre l'entraînait au dehors à quelques pas au milieu des poules effarouchées. « Je suis honteux, mon ami, véritablement honteux, dit-il de sa voix la plus douce. Je vous prie d'excuser l'ignorance de cette pauvre dame. Je vous prie aussi de me pardonner. Nous parlerons de ça plus tard, conclut-il sur un autre ton, et vous verrez que je suis le plus coupable des deux. » Monsieur le curé de Luzarne sentait sur son bras l'étreinte des doigts nerveux, un peu tremblant. Jusque dans l'humiliation volontaire de cet homme surnaturel, le don qu'il avait reçu rejaillissait au dehors, et il agissait encore en maître. « Mon bon confrère, répondit l'ancien professeur de chimie, déjà moins jovial, ne vous accusez pas devant moi. Je passe à tort ou à raison pour un esprit fort, et même auprès de quelques-uns pour un mauvais esprit. Formation scientifique, vous savez, voilà tout. Des nuances, un vocabulaire un peu différent, mais je n'en ai pas moins la plus grande estime pour votre caractère. » Il parlait, les yeux baissés, avec un embarras grandissant. Il se sentait ridicule, odieux peut-être. Enfin, il se tut. Mais avant de relever le front, il vit, comme en lui-même, comme au plus profond miroir, le regard posé sur le sien, et il dut le chercher malgré lui, il dut se livrer tout entier. Une seconde, il se sentit nu devant ce juge plein de pardon. Il ne voyait que le regard dans la face tremblante, détendue, livide, ce regard qu'il appelait de si loin, suppliant, désespéré, plus fort que deux bras tendus, plus pitoyable qu'un cri, muet, noir, irrésistible. « Que me veut-il ? » se demandait le bonhomme avec une espèce d'horreur sacrée. « Je croyais le voir dans les temps de feu, » expliqua-t-il plus tard. Une inexplicable pitié lui crevait dans le cœur. Un moment, sur son bras, il sentit la vieille main trembler plus fort. « Priez pour moi, » murmura le saint de l'Imbre à son oreille. Mais, resserrant son étreinte, puis s'écartant d'un geste brusque, il ajouta d'une autre voix, rude, d'un homme qui défend sa vie, « Ne me tentez pas !» Et ils rentrèrent dans la maison côte à côte sans plus rien dire. « Ne me tentez pas !» Il n'avait jeté que ce cri. Il aurait voulu expliquer, s'excuser. Déjà rouge de honte à la pensée qu'il entrait dans cette maison en dispensateur des biens de la vie, désespérant de se tirer de là sans faute grave et sans scandaliser le prochain. Et puis, soudain, dans un éclair, les forces qui l'avaient assailli tout au long de la nuit douloureuse étaient suscitées de nouveau, et la parole qu'il allait dire, sa propre et secrète pensée, se dissipa d'un coup dans l'unique réalité de l'angoisse. Si bas que l'eût traîné jamais l'ingénieuse ennemie, tout lien n'était pas rompu, ni tout écho du dehors étouffé, mais cette fois la forte main l'avait arraché tout vif, déraciné. « Sauve-toi toi-même, c'est l'heure !» disait aussi la voix jamais entendue, tonnante. « Fini la lutte vaine et la monotone victoire. 40 ans de travail et de petits profits, 40 ans d'un débat fastidieux, 40 ans dans les tables à plat sur la bête humaine, au niveau de son cœur pourri, 40 ans gravis, surmontés. Hâte-toi, voilà ton premier pas, ton unique pas hors du monde. » Et cette voix disait 1000 choses encore, et n'en disait qu'une, 1000 choses en une seule, et cette seule parole brève comme un regard, infini. Le passé s'arrachait de lui, tombait en lambeaux. à travers la mouvante angoisse, passait tout à coup comme un éclair, l'éblouissement d'une joie terrible, un éclat de rire intérieur à faire éclater toute armure. Il se voyait petit prêtre dans le préau du séminaire un jour de pluie, dans la haute salle au décor de damas cerise, devant sa grandeur en camaille et en rocher, les premiers jours à Limbre, le presbytère en ruine, la muraille nue, le vent d'hiver dans le petit jardin, et puis le travail immense, et maintenant cette foule impitoyable pressée nuit et jour autour du confessionnal de l'homme de Dieu comme d'un autre curé d'Ars, la séparation volontaire de tout secours humain, oui, l'homme de Dieu disputé comme une proie, nul repos, nulle paix que celle achetée par le jeûne et les verges, dans un corps enfin terrassé, les scrupules renaissant, l'angoisse de toucher sans cesse les plaies les plus obscènes du cœur humain, le désespoir de tant d'âmes damnées, l'impuissance à les secourir et à les étreindre à travers l'abîme de la chair, l'obsession du temps perdu, l'énormité du labeur. Que de fois, et cette nuit même, il a supporté l'assaut de telles images. Mais à cette heure, une attente, une grande et merveilleuse attente, l'éclaire au-dedans, finit de consumer l'homme intérieur. Il est déjà l'homme des temps nouveaux, un nouveau convive, comme ce monde est déjà loin derrière lui, loin derrière son troupeau rétif. Il ne retrouve plus, il ne retrouvera plus jamais, ce sentiment si vif de l'universel péché. Il n'est plus sensible qu'à l'énorme mystification du vice, à son grossier et puéril mensonge. Pauvre cœur humain à peine ébauché, pauvre cervelle aride, peuple d'en bas qui remue dans ta vase inachevée, il ne lui appartient plus, il ne le connaît plus, il est prêt à le renier sans haine. Il remonte au jour, pareil à un plongeur, tout son poids jeté vers les bras tendus et qui, dans l'eau noire et vibrante, ouvre déjà les yeux à la lumière d'en haut. « Tu t'es fait libre ?» disait l'autre, un autre si semblable à lui-même. Ta vie passée, ton inutile mais touchant labeur, ton jeûne, ta discipline, ta fidélité un peu naïve et grossière, l'humiliation au dehors et au dedans, l'enthousiasme des uns, la juste défiance des autres, telle parole pleine de poison. Ah, tout n'est qu'un rêve, et l'ombre d'un rêve. Tout n'était qu'un rêve, or ta lente ascension vers le monde réel, ta naissance, ton élargissement. Ose-toi jusqu'à ma bouche, entends le mot où tient toute science. » Et il prête l'oreille, il attend. Il est là même où le voulut mener le vieil ennemi, qui n'a qu'une ruse. Avili, refoulé, répandu à terre comme une lie, écrasé d'un poids immense, brûlé de tous les feux invisibles, repris à la pointe du glaive, encore percé, tronçonné, son dernier grincement couvert par le cri terrible des anges, ce vieux rebelle à qui Dieu n'a laissé pour défense qu'un unique et monotone mensonge. Hélas ! Le même mensonge au coin d'une bouche avare, ou dans la gorge avide et mourante où râle le plaisir féroce, le même tu sauras, tu vas savoir. Voici la première lettre au mot mystérieux. Entre ici, entre en moi, fouille la plaie vive, bois et mange, rassasie-toi. Car après tant de siècles, c'est encore vous qui l'attendez mille fois repeint et rajeuni, ruisselant de fard et de baume, luisant d'huile, riant de toutes ses dents neuves, offrant à votre curiosité cruelle son corps tari, tout son mensonge, où votre bouche aride ne sucera pas une goutte de sang. Je le vis, ou plutôt nous le vîmes, écrivait beaucoup plus tard à Monsieur le chanoine Cibot, le curé de Luzarne, ancien professeur au petit séminaire de Cambrai. Je le vis au milieu de nous, les yeux mi-clos, et pendant plusieurs minutes nous le regardâmes sans vouloir rompre le silence. L'expression naturelle de son visage était une bonté pleine d'onction, à laquelle plusieurs personnes prudentes trouvaient déjà le caractère d'une certaine simplicité. Mais sa figure osseuse nous parut à tous, en cet instant, comme pétrifiée par un sentiment d'une extrême violence. Il avait l'air d'un homme qui donne tout son effort pour franchir un pas difficile. Je remarquai que sa taille s'était incroyablement redressée et qu'elle donnait, dans la vieillesse, l'impression d'une vigueur peu commune et même de brutalité. Bien que mon esprit, formé jadis à la sévère méthode des sciences exactes, soit ordinairement peu sensible aux entraînements de l'imagination, je fus tellement frappé du spectacle de ce grand corps immobile et comme foudroyé dans le paisible décor d'un intérieur campagnard, que je doutai un moment du témoignage de mes sens. Et quand je vis mon respectable ami s'agiter et parler de nouveau, j'en fus surpris comme d'un événement inattendu. Il semblait d'ailleurs sorti d'un rêve. Je vous ai dit plus haut, mon très honoré collègue, que je m'étais porté à la rencontre de notre cher curé de l'Imbre et que je l'avais rejoint au bord de la route à quelque distance de la maison. Certaines phrases, dont le sens précis m'échappa peut-être, avaient ajouté à mon inquiétude. J'essayais de répondre ce qu'une prudente amitié m'inspirait lorsque, me serrant le bras avec violence et plongeant son regard dans le mien, « Ne me tentez plus, » dit-il. Notre premier entretien finit là, nos pas nous ayant déjà portés jusqu'au seuil de la maison à vrai. J'eus à cette minute le pressentiment d'un malheur. Il n'était que trop vrai. L'enfant, dont l'état était d'ailleurs désespéré, s'était éteint pendant ma courte absence. La sage femme, Madame Lambelin, avait scientifiquement constaté le décès sans erreur possible. « Il est mort, » nous dit cette personne à voix basse. Mais je ne sais si Monsieur le curé de l'Imbre l'entendit. Il avait passé le seuil, fait quelques pas, lorsque par un mouvement bien touchant et dont toute personne éclairée peut, en y déplorant toutefois une certaine exagération, due surtout à l'ignorance, honorer la sincère piété, la malheureuse mère vint littéralement se jeter aux pieds de mon vénérable confrère et, dans l'emportement de son désespoir, elle baisait sa vieille soutane, frappant le sol de son front avec un bruit qui retentissait dans mon cœur. Au contact de la pauvre femme, et sans baisser sur elle les yeux, Monsieur le curé de l'Imbre s'arrêta net. C'est alors que nous le vîmes, pendant quelques longues minutes, immobile au milieu de la pièce, comme une statue, et tel enfin que je vous le dépeignais tout à l'heure. Puis, faisant sur la tête de Madame Avray le signe de la croix, et levant vers moi son regard, « Sortons, » dit-il. Hélas, mon cher et honoré collègue, telle est la faiblesse de notre esprit, saisi par une impression trop vive, que rien alors, il me semble, ne m'eût retenu de le suivre, et que, dans l'excès de son affliction, la mère infortunée nous laissa aller sans rien dire. De nous tous, peut-être, Mademoiselle Lambelin avait gardé son sang-froid. Il y a certes beaucoup à reprendre dans la conduite et la religion de cette personne, mais Dieu nous donnait par elle une leçon de bon sens et de raison. Sans aucun doute, j'étais pendant cette effroyable matinée comme un jouet entre les mains d'un malheureux homme qu'un conseil salutaire, appuyé sur l'expérience et le savoir, aurait pu préserver d'un affreux malheur. Dieu seul pourrait dire si je fus l'instrument de sa colère ou de sa miséricorde. Mais les tristes événements qui suivirent font pencher la balance en faveur de la première hypothèse. Le distingué chanoine Prébandé, mort depuis, semble revivre à chaque ligne de cette lettre véritablement unique, judicieuse et discrète formule enfilée comme des marrons d'Inde, où les sots ne trouveront rien que de banal et de bas, mais qu'enveloppe la magie d'un rêve. Seul rêve d'une pauvre vie qui ne connut jamais que ce cas de conscience et s'y brisa. Seul doute et seul enchantement. Peu de mois avant sa mort, l'innocente victime écrivait à l'un de ses familiers « Forcé d'interrompre un travail qui était ma seule distraction, je ne puis détourner ma pensée de certains souvenirs, et parmi ceux-là du plus douloureux, la malheureuse et inexplicable fin de Monsieur le curé de Limbres. J'y reviens sans cesse. J'y vois un de ces événements, si rares en ce monde, qui passent la commune raison. Ma faible santé subit le contre-coup de cette idée fixe, et j'y vois la principale cause de mon affaiblissement progressif et de la perte presque totale de l'appétit. Ces dernières lignes réjouiront n'importe lequel de ces détrousseurs de documents humains que nous laissons aujourd'hui barbotant et reniflant dans les eaux basses. Mais à les lire sans curiosité vile, en laissant retentir en soi-même l'écho de cette plainte naïve, on comprendra mieux ce qu'il y a de détresse sincère dans cet aveu d'impuissance, écrit d'un style aussi soutenu. Le suprême effort de certains hommes simples, nés pour un labeur paisible, et qu'une merveilleuse rencontre a jeté au cœur des choses dans un seul éclair vite éteint, lorsqu'on les voit s'appliquer jusqu'à la dernière minute de leur incompréhensible vie à rappeler et ressaisir ce qui jamais ne repasse et qui les a frappés dans le dos, est un spectacle si tragique et d'une amertume si profonde et si secrète qu'on ne saurait rien y comparer que la mort d'un petit enfant. C'est en vain qu'ils retournent pas à pas, de souvenir en souvenir, qu'ils épellent leur vie lettre à lettre. Le compte y est, et pourtant l'histoire n'a plus de sens. Ils sont devenus comme étrangers à leur propre aventure. Ils ne s'y reconnaissent plus. Le tragique les a traversés de part en part pour en tuer un autre à côté. Comment resterait-il insensible à cette injustice du sort, à la malfaisance et à la stupidité du hasard? Leur plus grand effort n'ira pas plus avant que le frisson de la bête innocente et désarmée. Ils subissent en mourant un destin qu'ils n'égalent pas, car si loin qu'un esprit vulgaire puisse atteindre, et quand même on imaginerait qu'au travers des symboles et des apparences il a quelquefois touché le réel, il faut qu'il n'ait point dérobé la part des forts et qui ait moins la connaissance du réel que le sentiment de notre impuissance à le saisir, à le retenir tout entier, la féroce ironie du vrai. Quel autre, mieux que ce prêtre si distingué, eût été capable de nous tracer le dernier chapitre d'une telle vie, consommée dans la solitude et le silence, à jamais scellé? Malheureusement, l'ancien curé de Luzarne n'a laissé que quelques lettres incomplètes dont nous avons cité les passages essentiels. Le reste a été soigneusement détruit après la clôture de l'enquête ordonnée par l'autorité épiscopale et dont les résultats furent provisoirement tenus secrets. Chapitre 5. Sortons, avait dit le curé de Limbres. L'autre l'avait suivi, non pas fasciné, comme il l'a cru depuis de bonne foi, mais par simple curiosité, pour voir. L'ancien professeur connaissait peu de choses du vieux prêtre, devenu tout à coup gardien d'un immense troupeau sans cesse accru. Par quel prodige ce bonhomme aux souliers crottés, toujours seul dans les chemins, et passant vite, avec son sourire triste, avait-il rassemblé autour de son confessionnal un véritable peuple, son peuple? Monsieur le curé de Luzarne, nouveau venu dans le diocèse, partageait jusqu'à un certain point la méfiance de quelques-uns de ses confrères. « Je me réserve, disait-il ingénument, et voilà qu'aujourd'hui, par hasard, un autre mot qu'il aimait. D'un premier pas, il entrait dans la confidence de ce singulier esprit. Ils sortirent dans le petit jardin, clos de murs, derrière la maison. Le beau soleil filtrait sur les romaines et les laitues. Les abeilles, dans le vent d'ouest, filaient comme des flèches, car la brise s'était levée avec le jour. Tout à coup, le curé de Limbres s'arrêta et fit un pas vers son compagnon. En pleine lumière, son vieux visage apparut marqué de la flétrissure de l'insomnie, aussi reconnaissable que le masque d'un agonisant. Une minute, la pauvre bouche se détendit, trembla. Puis, au regard curieux qu'il observait, l'autre regard vaincu livra son secret, se livra, le bonhomme pleurait. Déjà le futur chanoine s'apitoyait, dressait en l'air sa petite main blonde. « En vérité, mon cher confrère, » il dit beaucoup de choses, en hâte, au hasard, comme il convient dans un cas si grave, se raffermissant à mesure au son de sa propre voix. Il regardait en parlant, pour être plus sûr de le convaincre, le prêtre tout chancelant que son infaillible éloquence allait tout à l'heure redresser. « Cette crise d'exaltation, mon pieux ami, n'est qu'une épreuve passagère, et un avertissement de la Providence qui n'approuve peut-être pas toujours les excès de votre zèle, ses rigueurs de pénitence, ses jeûnes, ses veilles. » Il allait, pressé de conclure, donnant à pleine main son emplâtre et ses baumes, quand une voix, d'un accent si singulier, ah, certes, une voix si singulière, si peu attendue, d'un homme qui n'avait point écouté, qui n'écouterait plus, dont la seule plainte restituait au néant l'éloquence déçue. « mon ami, je n'en puis plus, je suis à bout. » Une autre parole trembla sur ses lèvres, qu'il n'acheva pas, mais le vigilant confrère, un moment déconcerté, « Ce désespoir, » commença-t-il. Le curé de l'Ambre posait déjà sur la sienne une main impérieuse, fébrile. « Écartons-nous un peu, » dit-il, « je vous en prie, jusque-là. » Ils s'arrêtèrent au pied d'un mur tout croulant. Quelle joyeuse vie bourdonnait autour. « Je suis à bout, » reprit la voix lamentable. « Ah, par pitié, mon ami, à présent mon unique ami, que votre charité ne vous égare pas, soyez dur. Je ne suis qu'un prêtre indigne, un pauvre prêtre, une âme aride, un aveugle, un misérable aveugle. » « Non pas, non pas, » rectifia poliment le futur chanoine, « non pas vous. » Mais peut-être quelques esprits téméraires qui, abusant de votre de votre bonne foi, il est si aisé de croire à tout le bien qu'on dit de nous. » Il sourit, écartant de sa main une guêpe importune. La guêpe, et cette bouche émerveillée, pleine de discours, deux bêtes bourdonnantes. « Mais, péremptoire, je vous écoute, » dit-il. Le curé de l'Imbre glisse à ses pieds, tombe à genoux. « Dieu me remet entre vos mains, » fait-il, « me donne à vous. »« Quel enfantillage !» s'écrie le futur chanoine. « Relevez-vous, mon ami. Votre imagination enfle démesurément une simple impression de fatigue, de surmenage. Oh, je ne suis qu'un homme ordinaire, mais une certaine expérience... » conclut-il avec un sourire. Le curé de l'Imbre répond à ce sourire par un autre sourire navré. Qu'importe, il ne veut voir en celui-là qu'un ami, avant le suprême détour non choisi, mais reçu, visiblement reçu de Dieu, son dernier ami. Ah, certes, il n'espère plus retourner en arrière, retrouver la paix, revivre. Il est déjà trop loin sur la route maudite. Il ira jusqu'à bout de souffle avec ce seul compagnon. « Hélas !» s'écrie-t-il, « tel j'étais au grand séminaire, tel je suis resté, une tête dure, un cœur sec, sans aucun élan, pour tout dire, un homme vil dont la Providence s'est servie. Le bruit fait autour de moi, l'obstination à me poursuivre, l'amitié de tant de pécheurs, autant de signes et d'épreuves dont je n'entendais ni le sens ni le but. Un saint mûrit dans le silence, et le silence m'était refusé. Tout à l'heure encore j'aurais dû me taire, je n'aurais pas à présent à vous faire un aveu. Oui, mon cœur saignait de quitter en un pareil moment cette pauvre femme à genoux, si durement, oui, durement frappée. Ce n'était pas sans raison, Pas sans raison, car, mon ami, alors que j'étais déjà sur le seuil de la porte, une pensée, une telle pensée m'est venue.
Laquelle ? Demanda M. le curé de Luzarne. D'un geste involontaire, il s'est penché vers lui jusqu'à sa bouche d'où ne sort maintenant qu'un murmure confus. Puis il se relève, atterré.
« Oh, mon ami » s'écrie-t-il. « Oh, mon ami !»
Il lève les bras au ciel et les croise sur sa poitrine, laissant retomber ses larges épaules avec accablement. Le vieux prêtre est toujours à genoux, tête basse. On ne voit que sa nuque grise courbée par la honte.
« Ainsi, épelle monsieur le curé de Luzarne, cette pensée vous est venue, tout à coup, pour la première fois ?»«
Pour la première fois. »
« Et jamais avant ?»«
Mon Dieu !» s'écrie le curé de l'Ambre, « jamais avant. Je ne suis qu'un malheureux. Depuis des années, je ne sais plus ce que c'est qu'une heure de paix. Comment pouvez-vous croire, quoi, jusque sous les pieds de Satan ? Un miracle, moi ? Mon ami, en vérité, je n'ai peut-être pas fait dans toute ma vie un seul acte d'amour divin, même imparfait, même incomplet. Non, il a fallu l'affreux travail de cette dernière nuit. Mot à mot, je ne m'appartiens plus. J'étais dans les convulsions du désespoir, et c'est alors comme par dérision que cette pensée m'est venue.
« Il fallait l'écarter, » dit l'autre.
« Comprenez-moi, » reprit le bonhomme humblement. « Je dis, cette pensée m'est venue. » C'est mal dit. Non pas une pensée, mais une certitude. « Ah, les mots me manquent. Ils m'ont toujours manqué, » s'écrie-t-il avec une impatience naïve. « Je dois aller jusqu'au bout, mon bien-aimé frère, jusqu'à ce dernier aveu. » Même à genoux devant vous, plongé dans l'angoisse, doutant même de mon salut, je crois, je dois croire invinciblement que cette certitude venait de Dieu.
Avez-vous eu, comment dirais-je, un signe matériel ?
Quel signe ? Fait le curé de l'Ambre, Candide.
Mais que sais-je ? Avez-vous vu ou entendu ?
Rien. Seulement cette voix intérieure. Si un ordre m'eût été donné aussi net, j'aurais obéi sur le champ. Mais c'était moins un ordre que la simple assurance, la certitude que cela serait si je voulais. Dieu m'est témoin que l'aveu que je vous fais m'arrache le cœur. Je devrais en mourir de honte. Je savais, je sais toujours, je suis sûr, qu'un mot de moi eût, mon Dieu, eût ressuscité, oui, ressusciterait ce petit mort.
« Regardez-moi, » dit le curé de Luzarne, après un long silence, avec autorité. Il le relevait des deux mains. Quand il le vit debout près de lui, les genoux crottés, la tête basse, il l'aima.
« Regardez-moi, » dit-il encore, « répondez-moi franchement, qui vous a retenu d'éprouver votre pouvoir à l'instant même ?»«
Je ne sais pas, » fit le vieux prêtre, « c'était une terrible chose. Lorsque l'instrument est trop vil, Dieu le jette après s'en être servi. Mais votre conviction reste intacte ?»«
Oui. » dit encore le curé de l'Imbre. « Et présentement, que décidez-vous ?»«
D'obéir, » répondit cet homme étrange.
Le futur chanoine retira vivement son binocle et le brandit. « Je ne vous conseillerai rien de simple, » dit-il. « Premièrement, vous allez rentrer derrière moi. Vous vous excuserez de votre mieux. Votre départ si brusque a dû paraître bien extraordinaire. » Peu délicat. Tandis que je remplirai ce devoir de politesse, vous irez, entendez-moi bien, vous irez dans la chambre mortuaire faire vos dévotions, de votre mieux, comme il vous plaira. je ne voudrais laisser aucun doute dans votre esprit déjà si bouleversé. Je prends tout sur moi, conclut-il après une imperceptible hésitation, mais par un geste tranchant, décisif. C'est ainsi qu'il dérobait à ses propres yeux la faiblesse d'un mouvement de curiosité à peine consciente, inavouée. Car parfois le plus vulgaire des hommes, égaré dans une salle de jeu, est pris au rythme de tous ses cœurs rapides, jette un louis sur le tableau et découvre un peu de soi-même. Puis, ramenant son binocle à la hauteur des yeux, « Après quoi, mon ami, vous irez sagement prendre un peu de repos ?»«
J'essayerai, » dit humblement le vieux prêtre.
« Cela dépend de vous. L'acte du repos, affirment les spécialistes, est un acte volontaire. Chez beaucoup de malades, l'insomnie même n'est qu'une des mille formes de la boulie. Croyez-en un homme à qui ces questions sont familières. Une crise morale telle que celle-ci n'est sans doute que la réaction naturelle d'un organisme surmené. Entre nous, mon cher confrère, parlons net. 9 fois sur 10, la paix que vous allez chercher si loin est à votre portée. Une bonne hygiène vous la rendra. Certes, dans la bouche d'un prêtre, ces vérités sont parfois dangereuses ou d'un maniement délicat. Mais d'un esprit supérieur comme est le vôtre, je n'ai pas à craindre une de ces interprétations excessives que certaines âmes scrupuleuses.
« Vous me croyez fou ?» dit le curé de Limbre avec douceur. Il levait sur lui son regard, tout à l'heure baissé, plein d'une tendresse mystérieuse. Puis il reprit « Hélas, il y a peu de temps, je l'eusse encore souhaité. À certaines heures, voir est à soi seul une épreuve si dure qu'on voudrait que Dieu brisât le miroir. On le briserait, mon ami, car il est dur de rester debout au pied de la croix, mais plus dur encore de la regarder fixement. Quel spectacle, mon ami, que celui de l'innocence à l'agonie! Mais, après tout, cette mort n'est rien. On pourrait peut-être la donner d'un coup, l'achever, remplir de terre la bouche ineffable, étouffer son cri. Non, la main qui le serre est plus savante et plus forte. Le regard qui se rassasie de lui n'est pas un regard humain. À la haine effroyable qui couve le juste expirant, tout est donné, tout est livré. La chair divine n'est pas seulement déchirée, elle est forcée, profanée par un sacrilège absolu, jusque dans la majesté de l'agonie. La dérision de Satan, mon ami, le rire, l'incompréhensible joie de Satan. Pour un tel spectacle, dit-il après un silence, notre boue est encore trop pure. Le drame du calvaire, commença le futur chanoine. Il n'acheva pas. Dès ce moment, ce prêtre cartésien cessa de voir clair en lui. L'éminent philosophe, dont les discours révélèrent jadis à tant de belles curieuses un autre univers sensible, et qui, par un dosage savant de mathématiques et d'esprit, fit du problème de l'être un divertissement d'honnêtes gens, s'il eut un jour entendu parler l'un de ces singuliers animaux tout en ressort, levier et pignon, ne se serait pas trouvé plus accablé que le prêtre malheureux, jusqu'alors si ferme, et qui, subitement tiré hors de lui-même, ne se reconnaît plus. Le curé de Limbre pose sur le front du futur chanoine un doigt aigu. « Malheureux sommes-nous, » dit-il d'une voix rauque et lente. « Malheureux sommes-nous qui n'avons ici qu'un peu de cervelle et l'orgueil de Satan. » Qu'ai-je à faire de votre prudence? À présent, mon sort est fixé. Quelle paix j'ai cherché? Quel silence? Il n'y a pas de paix ici-bas, vous dis-je, aucune paix. Et dans un seul instant de vrai silence, ce monde pourri se dissiperait comme une fumée, comme une odeur. J'ai prié notre Seigneur de m'ouvrir les yeux. J'ai voulu voir sa croix. Je l'ai vue. Vous ne savez pas ce que c'est. Le drame du calvaire, dites-vous,
mais il vous crève les yeux, il n'y a rien d'autre. Tenez, moi qui vous parle, Sabirou, j'ai entendu, oui, jusque dans la chair de la cathédrale des choses. Je ne peux pas dire, ils parlent de la mort de Dieu comme d'un vieux conte. Ils l'embellissent, ils en rajoutent. Où vont-ils chercher tout ça, le drame du calvaire? Prenez bien garde, Sabirou.
Mon cher ami, bégayait l'autre à bout de force, une telle exaltation, une telle violence, si éloignée de votre caractère.
Et certes, la parole elle-même l'effrayait moins que cette voix devenue si dure. Mais le pi, c'était son propre nom, les trois syllabes en plein vent, jetées comme un ordre. Sabirou, Sabirou. Prenez bien garde, Sabirou, que le monde n'est pas une mécanique bien montée. Entre Satan et lui, Dieu nous jette comme son dernier rempart. C'est à travers nous que, depuis des siècles et des siècles, la même haine cherche à l'atteindre. C'est dans la pauvre chair humaine que l'ineffable meurtre est consommé. Ah, ah, si haut, si loin que nous enlève la prière et l'amour, nous l'emportons avec nous, attaché à nos flancs, l'affreux compagnon, tout éclatant d'un rire immense. Prions ensemble, Sabirou, pour que l'épreuve soit courte et la misérable foule humaine épargnée. Misérable foule! Sa voix se brise dans sa gorge et il couvre ses yeux de ses mains frémissantes. Tout autour, le clair petit jardin siffle et chante, mais il ne l'entendait plus. Misérable foule, répète-t-il tout bas. Au souvenir de ceux qu'il avait tant aimés, sa bouche trembla. Une espèce de sourire monta lentement sur sa face et s'y répandit avec une majesté si douce que Sabirou craignit de le voir tomber là, devant lui, mort. Il l'appela deux fois, timidement. Alors, comme un homme qui s'éveille, « Je devais parler ainsi. Cela va mieux. » « Je crois qu'il m'était permis, Sabirou, de rectifier un peu votre jugement sur moi. Il me serait pénible de vous laisser croire que j'ai jamais été favorisé de visions, d'apparitions, enfin de tentations peu communes. Cela n'était pas fait pour moi, non. Ce que j'ai vu, mon ami, je l'ai vu dans ma petite sacristie, assis sur ma chaise de paille, aussi clairement que je vous vois. Voyez-vous, on ne sait pas ce que c'est qu'un pécheur. Qu'est-ce qu'une voix dans le noir d'un confessionnel qui ronronne, se hâte et ne se pose que sur les premières syllabes ou mea culpa? Bon pour les enfants, ça, pauvre petit. Mais il faut voir les visages où tout se peint et les regards. Des yeux d'homme, Sabirou, on a toujours à dire là-dessus. « Certes, j'ai assisté bien des mourants. Ce n'est rien. Ils n'effraient plus. Dieu les recouvre. Mais les misérables que j'ai vus devant moi, et qui discutent, sourient, se débattent, mentent jusqu'à ce qu'une dernière angoisse les jette à nos pieds comme des sacs vides. Cela fait encore figure dans le monde, allez. Ça piaffe devant les filles, ça blasphème agréablement. » Ah, longtemps je n'ai pas compris. Je ne voyais que des égarés que Dieu ramasse en passant. Mais il y a quelque chose entre Dieu et l'homme, et non pas un personnage secondaire. Il y a cet être obscur, incomparablement subtil et têtu, à qui rien ne saurait être comparé, sinon l'atroce ironie, un cruel rire. À celui-là, Dieu s'est livré pour un temps. C'est en nous qu'il est saisi, dévoré, c'est de nous qu'il est arraché. Depuis des siècles, le peuple humain est mis sous le pressoir, notre sang exprimé à flot, afin que la plus petite parcelle de la chair divine soit de l'affreux bourreau, l'assouvissement et la risée. Ah, notre ignorance est profonde. Pour un prêtre érudit, courtois, politique, qu'est-ce que le diable ? Je vous le demande. À peine ose-t-on le nommer sans rire. Il le siffle comme un chien, Mais quoi? Pense-t-il l'avoir rendu familier? Allez, allez, c'est qu'ils ont lu trop de livres et n'ont pas assez confessé. On ne veut que plaire. On ne plaît qu'aux sots qu'on rassure. Nous ne sommes pas des endormeurs, Sabirou. Nous sommes au premier rang d'une lutte à mort et nos petits derrière nous. Des prêtres. Mais ils ne l'entendent donc pas, le cri de la misère universelle? Ils ne confessent donc que leur bedeau? Ils n'ont donc jamais tenu devant eux face à face un visage bouleversé? Ils n'ont donc jamais vu se lever un de ces regards inoubliables, déjà plein de la haine de Dieu, auquel on n'a plus rien à donner, rien? L'avare rongé par son cancer, le luxurieux comme un cadavre, l'ambitieux plein d'un seul rêve, l'envieux qui toujours veille. Et quoi? Quel prêtre n'a jamais pleuré d'impuissance devant le mystère de la souffrance humaine, d'un Dieu outragé dans l'homme, son refuge? Ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas voir. À mesure que l'âpre voix s'élevait dans le vent et le soleil, le vigoureux petit jardin la défiait de toute sa forte vie. La brise de mai, roulant au ciel ses nuages gris, bloquait parfois au-dessus de l'horizon leur immense troupeau. C'est alors qu'un jet de lumière éblouissante, pareil à l'éclair d'un sabre, rasant toute la plaine assombrie, venait éclater dans la haie splendide. « Je me sentais, écrivait plus tard l'abbé Sabirou, comme sur une cime isolée, exposée sans défense au coup d'un invisible ennemi. Et lui, redevenu silencieux, fixait le même point dans l'espace. Il avait l'air d'attendre un signe qui ne vint pas. »